Silence.
Toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.org pour le direct et .com pour les podcasts. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour Damien, j'espère que tu vas bien.
Ça va bien, voilà. Et toi?
Eh bien oui, ma foi, ben moi quand je suis avec les auditeurs, il n'y a aucun souci, je me sens bien, je me sens mieux déjà. Rien que de savoir qu'on est ensemble, et moi, même si on ne se voit pas, mais au moins on peut s'entendre, si on peut dire.
C'est le principal.
Ouais, en fait, j'ai un petit truc là, que j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça un peu, enfin drôle, oui, enfin, il s'agit d'un acteur turc. Un acteur turc qui s'appelle Cüneyt Arkın et qui est d'ailleurs un des acteurs les plus populaires de Turquie, en fait. Et ce qui m'a amusé, si on peut dire, il est mort, enfin, il est décédé, il avait 85 ans. Hein. Il est décédé aujourd'hui, le 28. Mais on le surnommait le Alain Delon turc, en fait. Ah, pour sa ressemblance déjà avec Alain Delon, mais surtout à ses débuts. Alors effectivement, j'ai vu quelques photos. Ah oui, c'est assez frappant, mais c'est vraiment à ses débuts, quoi. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils disent, il lui ressemblait alors par son charisme, hein, un charisme certain, et des yeux bleus perçants il avait. Voilà, c'était un acteur, réalisateur, producteur. Bon, c'était pas du grand cinéma, mais bon. Alors, ses rôles, c'était guerrier, super-héros, ninja, policier, cow-boy solitaire, voilà, etc. Donc, ça a un peu tiédi, d'ailleurs, dans les années 90, apparemment. Bon, après, il a plutôt plongé dans le nanar. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est comme ça. Donc, pour les fans de nanar, après 1990, il y avait des petites choses, voilà, comme ça. En tout cas, Cüneyt Arkın, surnommé le Alain Delon turc. Voilà. J'ai trouvé l'anecdote quand même assez sympathique, voilà.
C'est
c'était
ça.
Juste pour... Ben oui.
Et donc, on pense à lui et à sa famille, voilà,
bien
tout,
sûr,
tous ses
bien
proches,
sûr.
Là, à
bien
qui
sûr.
Il va laisser un manque. Et donc, ben nous, on va vous parler des films qui sortent cette semaine. Et on va notamment débuter avec un film de Jérôme Commandeur. C'est une comédie. C'est sa deuxième réalisation et ça s'appelle Irréductible.
Carrément, ça dure 1h25. Comédie française, oui, de Jérôme Commandeur. Oh, ben, qui ne le connaît pas, Jérôme Commandeur, quand même, maintenant, là, hein, entre ses one-man shows et puis son cinéma, quand même, on commence à savoir qui il est. Et en fait, il a beaucoup de talent, Jérôme Commandeur, réalisateur, scénariste, acteur. Il est français, il a 46 ans, il a 13 ans de carrière. Et c'est son deuxième long-métrage, tu l'as dit, comme réalisateur, mais il a... On peut l'avoir vu quand même dans une trentaine de tournages comme acteur.
Oui, voilà. Quand même.
Eh bien oui. D'ailleurs, en 2016, il avait réalisé un film qui a marché auprès du public, mais un petit peu moins auprès de la critique, un petit peu moins, mais bon, ça s'appelle « Ma famille t'adore déjà ». Alors, il y avait Thierry Lhermitte, il y avait Arthur Dupont, Déborah François, Marie-Anne Chazel. Voilà, c'est... On peut le trouver en DVD, mes chéris, si ça vous intéresse, si vous aimez Jérôme Commandeur et son cinéma. Voilà, il est sorti en mars 2017, le DVD, puisque le film est sorti en 2016. Donc là, Irréductible, c'est tout à fait différent. Enfin, c'est quand même de la comédie, mais c'est tout à fait différent de Ma famille t'adore déjà, qui était son premier, hein, long métrage. Donc là, Irréductible a un prix et deux nominations. Alors, il a le grand prix du jury. Le jury qui était présidé par Michel Larocque, le jury du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2022. Il a deux nominations également. On va parler un peu de l'histoire. C'est l'histoire de Vincent Pelletier, qui est un paisible employé aux Eaux et Forêts à Limoges. Il est incité à démissionner à cause d'une révision des effectifs. Alors, ce qu'il souhaite le moins, le moins du monde, même, on peut dire, bah, il ne veut pas démissionner. Mais oui. Alors, une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits du monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie donc au Groenland, et oui, pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite. Ah, point de suspension. Alors, dans les rôles principaux, on a Laetitia Doche, on a Pascal Arbillot, de très charmante et talentueuse comédienne. Jérôme Commandeur, il joue le rôle de Vincent. On a Gérard Darmon, on a Christian Clavier, on a Nicole Calfan, Eva Darlin, Jean-Marie Winning, on a Valérie Lemercier, on a Esteban également. Gérard Depardieu qui joue Gérard Depardieu d'ailleurs. On a Malik Bentala, voilà. Donc c'est un... En fait, Irréductible, c'est le remake d'un film italien qui s'appelle Covado. Alors, Covado, ça veut dire « j'y vais hein, », de Gennaro Nunziante, qui est un réalisateur italien, voilà, de 58 ans. Avec, et dans son film, d'ailleurs, il a le phénomène comique italien actuel qui s'appelle Checco Zalone, qui joue justement dans Covado. Alors, Covado, c'est un jeu de mots hein, sur l'expression latine « covadis ». C'est-à-dire « covadis », c'est « où vas-tu ?» qui avait donné lieu d'ailleurs à des films, hein, film Covadis. Il y a eu plusieurs films sur Covadis, dont le meilleur d'ailleurs était en 51. Ça, c'est un tuyau que je vous donne parce qu'on peut trouver le DVD pas cher du tout. C'est un péplum de 2h50 avec Deborah Kerr et Robert Taylor. Peter Ustinov dans le rôle de Néron. C'est vraiment le Covadis à avoir dans sa vidéothèque, celui-là. 1951. De Melvin Leroy, qui était un grand réalisateur qui est décédé en 1987. Voilà, c'était juste pour parler de ce Quo Vadis que je trouve formidable, que j'aime beaucoup. Donc, Irrésistible, donc c'est le remake de ce film. Alors, Jérôme Commandeur nous dit à ce propos, le film part du rapport aux femmes, de la mixité et des questions environnementales. Toutes ces choses qui sont devenues incontournables, essentielles, en 10 ans. Il n'a pas tort. Pardon, effectivement. Alors, Vincent, nous dit-il, ressemble à beaucoup de Français dont on parle quand on évoque le déclassement, pardon, ou ce sentiment d'être un peu perdu dans la société actuelle. Vincent vit au cœur d'une France éternelle, un peu plan-plan, la petite ville, le clocher, le facteur qui passe, le boulot tout près de chez lui, une fiancée et une future belle famille. Sauf que, soudain, l'administration se restructure. Elle doit se séparer d'une partie de ses agents. Et elle lui dit, bah, tu prends ton chèque et tu t'en vas. Voilà, c'est quand même, effectivement, ce sont des méthodes un petit peu dures quand même. Alors, le film navigue en fait entre la Suède, une base artistique, la jungle équatorienne, les rues de Limoges, etc. C'est une sorte de voyage en même temps. Hein. On va un peu partout avec ce film Irréductible. Alors mes chéris, si vous avez besoin de vous détendre, si vous avez besoin vraiment hein, de rire, de vous faire du bien pendant 1h25, bah, Allez donc voir Irréductible. Bah, si vous êtes fan de Jérôme Commandeur, inutile de vous dire d'aller le voir, hein. Vous irez certainement. Voilà.
C'est ça.
Est-ce que tu avais une bande-annonce
J'ai
peut-être?
tout à fait une bande-annonce que l'on va écouter maintenant.
Merci.
Tiens, toi, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Vétérinaire. Je veux être pompier.
Et toi, Vincent?
Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille.
Eh oui, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard?
Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Je te rappelle du bureau, c'est gratuit.
Voici ton permis de chasse, Gérard.
Je t'ai apporté des cailles.
Des cailles, mais merci, mais fallait pas.
Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu.
Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout.
Ils veulent te virer.
Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles.
Mais je fais quoi, je signe?
Non, mais... Jean! Mais ne blasphème pas, Vincent.
Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous, mais trouvez-le-moi.
Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires.
Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite?
Si, si.
Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu.
Vous me signez un certificat de non-habilitation.
Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu.
C'est un chercheur?
Ouais.
Il cherchera quelqu'un d'autre.
Je vais prendre une map monde. Je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt.
Oh, tiens bon, Vincent, tiens bon.
T'envoies où cette fois-ci?
Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants.
C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, hein, qu'on appelle les Parisiens.
Voilà donc la bande-annonce d'Irréductible, le dernier film de Jérôme Commandeur. Et maintenant, nous allons retrouver Kieron G. Walsh pour le film qui s'appelle L'Équipier.
L'Équipier, ah oui, oh, c'est un titre mystérieux, on se demande de quoi il s'agit quand même, hein. Équipier, il y a toutes sortes d'équipiers, dans toutes sortes de métiers d'ailleurs. Ben, on va voir, L'Équipier, ça dure 1h35, c'est un drame irlandais, belge et luxembourgeois. Et tu as dit Kieron G. Walsh, et oui, c'est un réalisateur, scénariste, producteur britannique. Il a 52 ans, 24 ans de carrière, 10 tournages à son actif, dont... En fait, sur les 10 tournages, il y a 7 productions. Et lui, il a 3 longs métrages. Et oui, il produit beaucoup de films, ça. C'est quand même intéressant, effectivement, quand même. Et alors, en 2001, on lui doit une comédie romancée qui a très, très bien fonctionné, qui s'appelle Brendan et Trudy. C'est avec Peter MacDonald et Flora Montgomery. C'était un... Brendan, c'est l'histoire d'un cinéphile qui est fou. Voilà, Brendan, il est rêveur. Alors, ça parle de travail, de famille, ça parle de la chorale dans laquelle il chante. Et puis, un jour, il rencontre la débordante de vie Trudy. Et là, tout va changer. Moi, je vous le conseille, hein, 2001, mes chéris, Brendan et Trudy. Ah oui, de Kieron G. Walsh, on le trouve aussi en DVD. Alors L'Équipier, on revient sur ce drame. Il s'agit du Tour de France. Nous sommes au milieu du Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot jaune, est lâché par l'équipe à laquelle il a consacré toute sa vie. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle. Voilà, il s'agissait d'équipiers du Tour de France, équipiers de vélo, dans le monde du vélo. Alors, dans les rôles, on a Louis Talpe. Alors, Louis Talpe, c'est un acteur belge qui est très connu en Belgique, ça marche très bien pour lui, qui joue donc Dom Chabol. On a Matteo Simoni, qui est un acteur belge également. Dans les rôles principaux, on a Tara Lee, qui est une actrice britannique. On a Len Glenn, qui est un acteur britannique aussi très, très, très connu, chez lui en tout cas. On a Paul Robert, qui est un acteur français. On a Karel Roden. Karel Roden, c'est un acteur tchécoslovaque. Et son visage, on le connaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, cet acteur-là, on le reconnaît. Il a souvent des rôles de vilain, quand même, plutôt. Plutôt assez vilain, voilà. Plutôt méchant, un peu. En général. Mais là, il n'y a pas de voyou, là. Il n'y a pas de bandit dans ce film. Alors, en fait, c'est quoi un équipier? Est-ce que tu sais, toi, Damien, exactement ce qu'il est en cyclisme, l'équipier?
C'est celui qui roule, qui cache le vent du leader et qui laisse la place au leader sur la fin. Non?
Tout à fait. C'est le domestique. C'est comme ça, hein, le mot hein, qui est utilisé, qui doit en cyclisme faire gagner son leader. Et oui, il est souvent méconnu du grand public. Hein. Il a pour fonction, tu l'as dit, de le protéger du vent, ouais, de le ravitailler ou encore de l'attendre lors de problèmes mécaniques. Eh bien, tu connais bien ça, dis-moi. Le monde du vélo, alors tu connais finalement très bien ça.
Un petit peu.
Parce qu'ils ont raison, il y a très peu de gens qui savent exactement qui est cet équipier et ce qu'il doit faire. C'est vrai que c'est quand même... C'est un peu mystérieux aussi, ça, finalement. Alors, il est aussi chargé d'attaquer, hein, de poursuivre, pour déstabiliser et affaiblir les équipes adversaires. Alors, de ce fait, un bon domestique est un coureur polyvalent, tant en plaine qu'en montagne. Son rôle est primordial pour faire gagner son équipe. Eh bien, oui. Alors là, Kieron T. Walsh, le réalisateur, souhaitait examiner le Tour de France, perçu en 1998 comme un événement sportif glamour et cool. Il nous dit « C'était la première fois que le départ avait lieu en dehors de l'Europe continentale et les Irlandais étaient très excités et honorés. Mais la réalité du sport en coulisses est à mille lieues de l'image qu'ils projettent. Il s'agissait en fait de types ordinaires qui logeaient dans des hôtels bon marché, qui se droguaient et frôlaient la mort pour participer à ce qui est l'événement sportif le plus difficile au monde. » Il cherchait également, oui, c'est vrai ça, que c'est difficile en plus. Hein. Il se demandait surtout pour les besoins de son film, il a cherché des renseignements, il a cherché à savoir ce qui se passait exactement. Il a lu de nombreux livres sur le cyclisme. Il s'est vraiment documenté un maximum parce que ça l'intéressait. Ça le fascinait aussi un petit peu, quoi. Et alors, le Belge Vital Pelas, qui joue le rôle principal, il est connu, je l'ai dit, hein, dans son pays en tant qu'acteur. Mais alors, il est surtout acteur, d'ailleurs, pour des programmes de télévision pour enfants. Voilà surtout comment il est repéré là-bas, en Belgique. Et en fait, c'est un passionné de cyclisme en même temps, Louis Talp. Et il participe régulièrement à des compétitions, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, des compétitions Ironman. Alors, Ironman, c'est une forme très exigeante du triathlon. Donc, c'est quelqu'un, qui sait qu'il faut une condition physique parfaite. Et il sait ce qu'un cycliste professionnel doit endurer. Il a à peu près le même âge, d'ailleurs, que le héros, hein, que Dom, l'équipier vieillissant. Mais Louis Talp, c'est quand même, on nous dit que c'est un acteur brillant qui a l'humilité d'un équipier. Ça, c'est le réalisateur qui l'a dit d'ailleurs en interview. Il s'est préparé, hein, physiquement, Louis Talp. Ah ben oui, il a dû réduire drastiquement son indice de masse corporelle. Il est passé de 17 à 7. C'est quand même ce qu'il a fait en 6 semaines. Alors il apparaît dans le film aussi maigre qu'un cycliste professionnel. Et oui, ben il le fallait, hein. Les acteurs, d'ailleurs, tous les acteurs ont fait beaucoup de vélo. Ils ont suivi un régime alimentaire avant de venir au camp d'entraînement de 10 jours qui était dirigé par Paul McCaid, qui est le frère de l'ex-président de l'Union cycliste internationale, qui s'appelle Pat McQuaid et qui est très connu dans le milieu du cyclisme. Il est conseiller technique, d'ailleurs, sur le film en même temps. Voilà. C'est quand même... C'est un film pour les fans de cyclisme, c'est sûr, mais pour les autres aussi, je trouve. C'est intéressant de voir ce qui se passe exactement. Mais attention, Kieron G. Walsh nous dit que ce n'est pas un film sur le cyclisme. D'ailleurs, il admet qu'il n'était pas un très grand fan de cyclisme avant de commencer à faire des recherches pour les besoins du film. Bon, ce qui l'intéressait, en fait, c'était un homme au crépuscule de sa carrière, sans solution. Un homme que son travail a mis dans une certaine situation, nous dit-il, et qui ne sait pas comment s'en sortir. Je pense que tout le monde peut s'identifier d'une manière ou d'une autre au fait d'être dans une impasse, de se sentir perdu. Et c'est dans cette optique que j'ai abordé le film. Voilà pourquoi c'est un beau film aussi, justement, très humain. L'équipier. Très beau film. Voilà.
Donc ça s'appelle L'équipier et c'est réalisé par Kieron G. Walsh. Maintenant, ça va être un premier film que nous allons retrouver. Premier film de Didier Barcelo, même s'il n'est pas novice derrière la caméra, car il a réalisé de nombreuses publicités. Mais là, c'est son premier long métrage et c'est en roue libre.
Oui, en roue libre, 1h29, comédie française. Bon, bah, Didier Barcelo, tu l'as dit, voilà, réalisateur, scénariste, coproducteur français. Et c'est son premier long métrage après avoir fait effectivement énormément de publicité. Un court métrage aussi de 17 minutes qui est sorti en 2011 et qui a eu un succès fou, gros succès, avec Charlotte Rampling et Gérard Darmon. Ça s'appelait The Hand. Et là, il est accompagné par la scénariste Marie Désert, qui lui a donné un petit coup de main. Et alors, c'est quoi ? Ben, on va tout de suite voir de quoi il s'agit. C'est la folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir. Et de Paul, qui vole la voiture et qui, du coup, la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road movie mouvementé. C'est une idée incroyable, ça, il fallait y penser. Alors, dans les rôles, on a un joli, joli casting. On a Marina Foïs, bah voilà, qui joue Louise. Je sais que tu l'aimes beaucoup, toi, Marina Foïs, comme actrice, Damien.
Oui, tout à fait.
Oui. On a Benjamin Voisin, oh, non moins talentueux, qui joue le rôle de Paul, le voleur de voiture. On a Jean-Charles Cliché, Albert Delpy. On a Jean-Pierre Martin, Candice Boucher, Ariane Mourier, Clémence Bretécher dans les rôles principaux. En mêlant à ses envies de comédie, de paysage et de huis clos que Didier Barcelo a donné naissance à son film En roue libre, son premier long métrage. Il nous dit que c'était l'idée d'un huis clos en mouvement, un personnage en voiture qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive, mais qui va découvrir que sa vie ne ressemble pas à grand-chose. Il dit que ça résonnait avec des crises de milieu de vie que traversaient certains de ses amis. Voilà. Alors qu'il pensait avoir imaginé la pathologie dont souffre le personnage de Louise, il a appris par une amie, chef de service dans un hôpital psychiatrique, qu'un cas similaire avait bien existé. Mais moins longtemps, quelques heures seulement. Elle s'est égarée sur le bord de la route, sur le chemin de son travail. Elle n'arrivait pas à en sortir. Il se trouve qu'elle subissait un harcèlement dans sa vie professionnelle. Des histoires terribles, ça. C'est une histoire de fou, hein. C'est le cas de dire. Terrible, terrible. Alors, en fait, le réalisateur a décidé de confronter le personnage de Louise à celui de Paul. Paul qui n'a a priori rien à voir avec elle. C'est un autre personnage qui pouvait la faire évoluer, l'aider à résoudre sa situation. Voilà, c'est ça. Hein. Benjamin Voisin, lui, c'est lui qui a été casté hein, pour jouer Paul. Il a été casté donc alors qu'il n'avait pas... il n'avait pas tourné depuis un certain temps, là. Et il aurait dû normalement tourner dans le film de François Ozon été 85. Non, il a tourné, pardon, dans le... Je suis sotte, moi. Dans mes notes, j'ai tout mélangé. Il a tourné été 85 de François Ozon qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin. Mais en fait, quand le réalisateur a fait appel à lui, il n'avait pas encore tourné dans le film de François Ozon. Il n'avait pas encore. Donc, il l'a pris, justement... alors qu'il devait avoir, quelques temps plus tard, le César du meilleur espoir masculin dans l'été 85. Il s'appelait Louis, je crois. Le rôle, c'était Louis. Alors, pour ce rôle-là, pour le rôle de Paul, le réalisateur nous dit qu'ils ont vu beaucoup de bons acteurs de cet âge-là. Mais au moment où j'ai vu Benjamin devant la caméra, quelque chose s'est passé. C'est amusant. Ce sont des choses que je lisais dans les interviews de réalisateurs et auxquelles je ne croyais pas. Mais là, il y a eu comme une évidence. Benjamin me fait penser à une sorte de Belmondo jeune. Il a lui aussi quelque chose de très naturel. Puis il y avait le choix de la voiture. La voiture, elle a un rôle important. Hein. Donc le choix de la voiture était très important. C'est le troisième personnage du film. Il y a Louise, il y a Paul et puis il y a la voiture. Alors, le réalisateur nous dit que par souci de réalisme, j'ai d'abord pensé à une petite voiture. Bon, une infirmière en province circulerait plutôt dans une Twingo ou une Clio que dans une Volvo. Mais je me suis dit aussitôt que je n'avais aucune envie de tourner à l'intérieur d'une Twingo. Alors, cherchons une belle voiture. Une voiture assez grande, vintage, photogénique et pas chère. En l'occurrence, une Volvo 240 Break. On sait tout, là. Hein. On avait écrit, nous dit-il, que c'était la voiture de son père. Le véhicule a été repeint en couleur moutarde et l'intérieur, la couleur des sièges, les matières, la couleur du plafond, a été complètement refait. Voilà. On sait tout sur la voiture. Mais c'est pas mal, c'est important aussi de savoir comment ça a pu se passer et quel est le rôle de cette voiture et comment elle s'appelle. Donc, elle s'appelle Volvo 240. Break. Et en fait, il nous dit que l'équipe ne pouvait pas filmer en faisant réellement rouler la voiture parce que le moteur aurait été trop bruyant. Alors finalement, tous les intérieurs dialogués ont été faits en studio. Ben oui, il y a parfois quand même des problèmes techniques hein, dont il faut tenir compte au moment du tournage quand même. Voilà. Donc on ne peut pas filmer dans une voiture qui roule. Avis aux amateurs. Et voilà.
Aux
amateurs qui veulent tourner un film dans une voiture, aux réalisateurs, oui. Il y a des amateurs hein, qui ont des petits caméscopes et qui tournent des petits films. Ça arrive. Voilà, c'est un casting tout à fait sympathique. C'est un film très très plaisant également. À voir. À voir. Ah ouais.
Et donc,
je sais pas, ça s'appelle je voulais demander
En
si
roue libre. Et on va écouter la bande-annonce, alors En roue libre, tout de suite sur Radio Entre deux Mers.
Merci.
S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture? Je suis bloquée dans ma voiture depuis ce matin. C'est une crise d'angoisse, je sais pas. Enfin.
Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu dégages.
Non, je peux pas sortir de ma voiture.
Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas sortir là?
Non, je peux pas sortir, je suis incapable, c'est physique.
J'arrive à tirer une caisse, il y a une cinglée dedans, putain. Moi, je vous préviens, je vais au Cap Ferret.
Mais moi, j'habite à Beau.
Je vais au Cap Ferret.
Pourquoi vous avez une arme?
C'était à mon frère. Il se fait renverser par un enculé. Et moi, je vais le buter. Et vous?
Mon ex-mari est tombé amoureux de ma meilleure amie.
Quelle grosse pute.
Très grosse pute.
Emma!
C'est qui ce type?
David, il est psy, il va t'aider.
Il faut une à deux séances par semaine pendant des années.
Nouveau challenge. Là, t'as une heure où je te bute.
Bah, parlez-moi de votre père, il fait quoi?
Agriculteur, mais
non,
je vois
pas
le rapport.
Pas le vôtre, celui de madame. Deux et trois.
Ça marche pas votre truc?
Bah ça prend du temps. Hein.
Vous pensez qu'il a besoin de vous?
Il est juste paumé. Hein.
Quand on est paumé, qu'on fait n'importe quoi.
Vous êtes sûr de votre plan? C'est pas un hasard s'il a débarqué dans ma voiture, non? On fait quoi s'il pleut?
C'est ça ton problème en fait. T'es tout le temps négatif.
Voilà pour En roue libre de Didier Barcelo. Et maintenant, c'est une réalisation de Varante Sudjian qui s'appelle La Traversée. Alors là, il faut avoir le pied marin et puis on embarque.
Exactement, il faut avoir le pied marin. La Traversée est une comédie française d'1h45. Alors tu l'as dit, Varante Sudjian, qui est un réalisateur, scénariste, adaptateur français. Il a 43 ans, c'est son troisième long métrage. Il a travaillé avec Thomas Paune, qui est un scénariste. Et juste comme ça, en 2018, parce que 2008, non, c'est un peu loin, 2018, vu qu'il a que 43 ans, ça ferait très jeune. 2018, il a réalisé une comédie qui s'appelle Walter. On en avait parlé à Radio Entre deux Mers de ce film. Walter. C'était l'histoire de braqueurs qui braquaient donc un magasin, et il y avait un vigile qui s'appelle Walter, d'ailleurs, qui était un ex-chef de guerre africain, qui va leur faire vivre un enfer, quoi. C'est, voilà. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait parlé, hein, Walter.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, dans les rôles, il y avait Alban Ivanov, il y avait Judith Elzin, et il y avait le Walter, là, le vigile, c'était Walter Issaka Sawadogo, qui était assez extraordinaire dans ce film, Walter. Puis en 2019, on a eu droit à la comédie Inséparable. On en avait parlé également sur Radio Entre-deux-Mers. C'est l'histoire d'un petit escroc, Mika, qui décide de changer de vie après un rapide tour en prison. Mais en prison, il avait croisé Poutine, qui est un détenu cinglé. Bah oui, c'est un hasard, hein. Il s'appelle Poutine, bah oui. Et il y avait Ahmed Silla qui jouait Mika, et c'était Alban Ivanov encore qui jouait Poutine. Voilà. Moi, je vous conseille les deux, mes chéris, si vous aimez les comédies qui font du bien. 2018, Walter, 2019, Inséparable. Alors là, on a quoi? C'est quoi cette histoire? Éducateur de quartier, Alex et Stéphanie emmènent 5 ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skipper, un ancien flic de la BAC qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de 15 jours. Une chose est sûre, après cette traversée, ils n'auront plus tout à fait la même vision du monde. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr que là, alors, on rappelle quand même ce que c'est la BAC. Tu connais, toi, enfin, je pense que tu sais ce que c'est la BAC.
La Brigade Anticriminalité.
Voilà, c'est ça. Et justement, ils ont souvent affaire à des jeunes, hein, des jeunes qui font des bêtises. Voilà. Et donc, le skipper Riton, là, ça va l'affoler de les revoir parce qu'il ne voulait plus en entendre parler. Alors, on va parler du casting qui est joli, joli. Alors, on a Alban Ivanov. Décidément, je pense que c'est l'acteur fétiche de Varant et Soudjian, j'ai l'impression, hein, Alban Ivanov. Ben, Alban Ivanov, c'est Riton. On a Lucie Jean-Baptiste, c'est Alex.
Lucien Jean-Baptiste.
Qu'on adore vraiment, oh là là, la première étoile et tout, oh là là, il nous a beaucoup amusé, Lucien Jean-Baptiste, comme réalisateur, c'est un excellent acteur. Donc, il est Alex, c'est-à-dire un des éducateurs, et l'éducatrice, c'est Audrey Pirot, qui joue le rôle de Stéphanie. Sinon, on a également, dans les rôles principaux, on a Moncef Farfar, on a Lucie Charles-Alfred, on a Mamari Diarra, on a Tila Thiam, on a Enzo Le Martinet, on a Mathias Mine. Ce sont de jeunes acteurs à découvrir vraiment. Ils sont superbes là dans le film, vraiment très doués. Alors, ce que nous dit le réalisateur, c'est que ça nous a amusé d'extraire de leur milieu des enfants déscolarisés, dont certains ont déjà un pied dans la délinquance. Ça nous a amusé, voilà, de les extraire pour un voyage sur un catamaran et de voir comment ils réagissent au spectacle de la mer une fois que le masque tombe. Et alors, en introduisant l'idée d'un skipper ancien flic de la BAC, on a trouvé le film. Eh oui. Alors, le film a été tourné dans la baie de Marseille en plein été. Alors, il nous dit d'ailleurs que c'était l'enfer. Ben oui, forcément, hein. Il y avait les vacanciers, il y avait les jet-skis, il y avait les musiques sur les bateaux, il y avait le sifflement du vent, il y avait le claquement des vagues, et il y avait, pour couronner le tout, le cri des mouettes. Et oui, et ça, le cri des mouettes, c'est quand même pas très discret, hein, si je me souviens bien. Voilà, en tout cas... Voilà. Alors, bravo quand même aux ingénieurs du son. Là, on va les citer quand même. Mince, ils ont fait un sacré travail. Franck Duval, Renaud Guillaumin et Jean-Paul Hurier. Ah là, ils ont fait un sacré boulot. Hein. Le réalisateur a eu de la chance de les avoir. Voilà. La traversée. Est-ce qu'on avait une bande-annonce? Est-ce que tu as une
Oui. On va écouter la bande-annonce maintenant.
Merci.
T'es sérieuse là? Je vais te démarrer, je te jure. Calme-toi, je me gâche à toi.
Je suis avec eux, je suis leur éducateur. Hein. Je suis un petit peu excité parce qu'on part 15 jours en mer là.
Partez en mer avec eux. Eh ben, bon courage.
Non, mais c'est quoi ce traquenard? Non, je traverse pas la Méditerranée avec ça.
Pardon?
Eh, mais il parle trop mal, lui.
Ni eux, ni moi, on a envie de passer 15 jours ensemble. Parce que pendant 10 ans, j'étais flic à la BAC.
Ah,
d'accord.
Non, mais vas-y, non.
Regardez-moi, c'est exactement ce qu'il veut, on ne bouge pas.
Ça, c'est la cuisine.
Il y a du coca?
Il y a pas de coca, mais on part dans 5 minutes. Donc, si tu veux, tu peux envoler à l'épicerie.
Regarde comment il nous parle comme un déhinche.
C'est pas très grand, mais vous verrez, hein. C'est pas des paysés de la garde à vue.
On va pas tomber dans son piège. C'est notre traversée, ok?
Non mais là, c'est la merde, là.
Mon bateau, c'est pas un HLM. Tout ce qui traîne, fringues ou autre, ça finit par-dessus bord.
Il y aura des dauphins.
Si tu veux avoir des dauphins, t'as qu'à aller au parc aquatique.
Tu me parles pas comme ça.
Oh, elle est tarée, elle.
De toute façon, on n'a pas besoin de lui. Depuis le départ, il nous sert à rien.
Excusez-moi, ils peuvent piquer une tête?
Ouais, pas de soucis. Par contre, faut nager vite, parce que je vous préviens, je m'arrêterai pas.
Vous y êtes allé un petit peu fort avec les jeunes, hein.
Je suis déjà très gentil de partir avec vous. Par contre, me demande pas d'être pote avec eux.
On a un problème.
Ryan, c'est quoi cette histoire? On vient d'avoir l'association. Ils ont eu ta mère hystérique. On peut pas participer à une fugue. C'est impossible ce que tu demandes, Ryan.
Tu vas vraiment prendre le risque de perdre ton taf pour une rachette qui a failli t'emplâtrer?
Ils ont l'air un petit peu sauvages comme ça, mais quand vous apprendrez à les connaître... Mais je m'en fous, moi, de reconnecter avec la nature, d'accord? J'ai des gamins, ça fait trois... Mais j'y fais, là.
Maman, t'étais pas lucide, là.
Tu sais quoi, Alex? Je crois que t'as oublié pourquoi tu faisais ce métier.
Il y avait du coca depuis le début.
Et sinon, on peut pas avoir un peu de bière?
Ouais. Tu veux une turlute avec?
Les relations sexuelles sont strictement interdites à l'intérieur de ce bateau.
Ça veut dire que si moi je dois qu'elle lâche, je peux pas.
Frère, heureusement, mon nom, il est pas sorti de ta bouche. Hein.
Comme si t'aurais pas kiffé.
Mais gros, même avec un taser, je te touche pas.
Voici la bande-annonce de la traversée de Varante Sudjian. Et maintenant, avec Giordano Gederlini, nous retrouvons le film Entre la vie et la mort.
Ah oui, Entre la vie et la mort. Oula, oh, excusez-moi, un titre qui fait frémir un petit peu quand même. Hein. Bah, c'est un thriller, hein. C'est un drame, c'est belge, c'est français et c'est espagnol. Ça dure 1h35 de Giordano, tu l'as dit, Giordano Gederlini, qui est un réalisateur scénariste de 51 ans. Il a 23 ans de carrière, il a 10 tournages à son actif, dont 4 longs métrages comme réalisateur. Et oui, les 4 métrages. Ah ben oui, en 2001, c'était Samouraï. En 2006, c'était L'œil à vif. En 2009, j'avais noté La guerre des saintes. Et en 2021, eh bien, nous avons Entre la vie et la mort qui nous arrive en 2022, après tout, hein, après tous les soucis qu'il y a eu avec le virus. Donc, ça a été un peu retardé. Donc là, alors il a été scénariste sur un film qu'on a beaucoup aimé, dont on a beaucoup parlé à Radio Entre-deux-Mers, qui a eu le César 2020 du meilleur scénario, justement. C'était le film Les Misérables, et réalisé par... par Ledge Lee. Eh bien, c'était lui le scénariste et c'est lui qui a eu ce César du meilleur scénario pour Les Misérables. Alors, Entre la vie et la mort, il y a 7 nominations au Festival international du film policier. C'est Reims Polar 2022. Eh bien, il a raté de peu un prix, ce film, franchement. Alors, dans les rôles principaux, on a Marine Watch, qui est une actrice française. Vax, je ne sais pas pourquoi je dis Watch, c'est Vax. Marine Vax. On a Antonio de la Torre, qui est un acteur espagnol. On a Olivier Gourmet, grand acteur belge. On a Fabrice Haad, qui est un acteur belge également. On a Marie Papillon, une actrice française. On a Nesbill, qui est un acteur français. On a un autre acteur belge, Thibaut van der Bore. Et on a Antonio de la Torre a un fils qui est joué par Noé Englebert, qui est un acteur belge, voilà, qui joue le fils d'Antonio de la Torre dans le film, hein, bien sûr. Antonio de la Torre dans le film s'appelle Léo Et le fils s'appelle Hugo. Donc, on va dire, mais de quoi s'agit-il exactement ? Léo, justement, on en parlait, Castaneda est espagnol. Il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d'un jeune homme au bord du quai, des yeux fiévreux, de détresse, un visage familier. Léo reconnaît son fils Hugo lorsque celui-ci disparaît tragiquement sur les rails. Léo, qui ne l'avait pas revu depuis plus de 2 ans, va découvrir qu'Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils. Donc, c'est un... Giordano Gederlini, le réalisateur, nous dit « Dans un film noir, il faut des personnages très incarnés. Ici, ils sont aussi assez silencieux. J'ai beaucoup échangé avec l'acteur Antonio de la Torre et Marine Vax sur qu'est-ce qui habite leurs personnages dans le film. Les personnages du film ont quelque chose à défendre. Ils ne sont pas seulement des stéréotypes de flics ou de gangsters. C'est ce que nous dit le réalisateur. Alors, le film est tourné à Bruxelles, qui est pour le réalisateur d'ailleurs une ville à la fois très cinématographique et anglo-saxonne, avec des immeubles en briques, des quartiers abandonnés et d'autres refaits, et de nombreux chantiers un peu partout. C'est une ville très graphique qui fait penser à Berlin, nous dit-il. Alors, l'acteur Antonio de la Torre ne parle pas du tout français. Il a donc appris ses dialogues par cœur. Mais oui, il a perdu 9 kilos et il a fait ses scènes d'action lui-même. Et il a appris à conduire un bus. Le réalisateur nous dit que c'est un gros bosseur. Ben, on veut bien le croire, là. Hein, on veut absolument. Alors, Entre la vie et la mort, ça s'inscrit dans la veine du film noir qui sert à dépeindre les dysfonctionnements de la société et à montrer des personnages en plein questionnement existentiel. Entre la vie et la mort. Ouais. Il y avait une bande-annonce, mais je ne sais pas si tu l'avais, celle-là.
Ah, celle-là, je ne l'ai pas trouvée, par contre.
Mais non, ça ne m'étonne pas. Et voilà, Entre la vie et la mort.
Voilà, mais ce n'est pas grave, car on continue avec une réalisation d'Iner Salim. Ça s'appelle Good Night Soldier.
Oui, Good Night Soldier. Ben, bonne nuit, soldat. C'est quand même, ouais, hein, bon. Ça dure 1h37, c'est un drame français et irakien. Iner Salim, tu l'as dit, c'est un réalisateur, scénariste, producteur irakien. Il a 57 ans, 28 ans de carrière et 11 tournages à son actif. Il a eu d'ailleurs, en tout, il a 3 prix et 20 nominations. Oui. Il avait eu d'ailleurs en 2003 un prix à la Mostra de Venise pour son film Vodka Lemon. Il y a eu 4 nominations également. C'est l'histoire d'Amo, qui est un retraité très pauvre, qui vit en Arménie avec un fils et sa petite fille. Et une lettre de son second fils arrive de France. La rumeur dit que l'enveloppe serait pleine de dollars. Voilà ce que c'était Vodka Lemon, avec Romic Avignon et Ivan Franck. Puis en 2011, on a eu un film qui a eu le prix Coup de foudre à Cabourg, au festival, pour « Si tu meurs, je te tue ». C'était une histoire d'amitié, d'amour, de mort. Il y avait Jonathan Zakaï dans les rôles principaux et Goldfishtay Farah Ani, qui est une actrice franco-iranienne. Goldfishtay, qui est magnifique d'ailleurs. Et là, donc, alors, il s'agit de quoi ? Quelle est cette histoire ? Zineh et Avdal, follement amoureux, décident de se marier, malgré l'hostilité de leur famille, qui se voue une haine ancestrale. Blessé sur le champ de bataille, Avdal ne supporte pas son état et remet en cause son mariage. Zineh est convaincue que la force de leur amour peut résister à tout, mais Avdal doit repartir au front. Alors, le casting est quand même intéressant, bien que on ne connaisse pas ces acteurs-là, mais justement c'est le moment ou jamais de faire connaissance avec eux. On a une actrice turque qui joue le rôle de Zineh, qui est Dilin Doger, qui est assez impressionnante. Avdal, c'est Galer Nerway, qui est un acteur kurde. Et puis on a Alain Azim, qui est un Irakien, et Barzan Chabouar, qui est également un acteur iranien. Ouais. Et en fait, c'est un... Ah oui, j'avais oublié qu'en 2013 aussi, au Festival de Cabo, il avait eu un prix de la jeunesse. Pour son film aussi My Sweet Pepperland. J'avais oublié celui-là en 2013. C'était l'histoire dans un village perdu entre l'Iran, l'Irak et la Turquie d'un officier de police qui se confrontait au caïd local et qui tombait amoureux de la belle institutrice. Et c'était Godshifteh Farahani justement qui jouait. Et il y avait Kormaz Arslan qui jouait le rôle de cet officier de police. Oui, My Sweet Pepperland. Je voulais en parler aussi parce que c'est un très très joli film, 2013. Ouais. Et là, alors le scénario de Good Night Soldier s'inspire de plusieurs histoires vraies, dont celle d'un blessé de guerre qui avait dû être opéré d'une grave lésion dans le dos, près de la colonne vertébrale. Bon, il avait été opéré, il allait plutôt bien, et il s'aperçoit le jour de ses noces que l'opération l'a rendu impuissant. Ça, c'était une histoire vraie, malheureusement. Donc, ce film s'inspire de plusieurs histoires vraies. Celle-là est terrible. Alors, il a été tourné au Kurdistan irakien, ce film, dans la ville de Duhok, puis également à une vingtaine de kilomètres à la campagne. Et enfin, dans les ruines d'Al-Kush, qui est une petite ville chrétienne dans la plaine de Ninive, dont Daesh avait fait le siège de l'État islamique et qui devait être libérée par les combattants kurdes. C'est pour ça qu'on a entendu parler justement de cette petite ville chrétienne à une époque, Al-Kush, à cause justement du siège de Daesh. Alors, il y a une petite anecdote qui est racontée par le réalisateur que je trouvais assez intéressante. Le tournage a duré 8 semaines. Il y a des choses que je peux faire là-bas, dit-il, qu'il me serait impossible d'exécuter à Paris. Par exemple, j'avais besoin de soldats pour une scène de figuration. J'ai appelé un ami officier. « Combien t'en faut-il » m'a-t-il demandé. « 1 000 », ai-je répondu. « Pour quand ?» me demande-t-il. « Dans 48 heures ». Ai-je répondu. D'accord. Eh bien, d'accord. Ah, il y a encore une chose, lui ai-je dit. Quoi ? Quoi ? Me demande-t-il. Je ne peux pas les nourrir. Et il m'a répondu, ne t'inquiète pas. Voilà. Cette anecdote, je la trouvais assez sympathique quand même. Et ça, il n'aurait pas pu le faire effectivement en France et à Paris. C'est évident. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? C'est sympa comme.
Oui, tout à fait. Oui.
Comme petite anecdote, ça. Allez, 1 000 soldats, oui, tu peux pas les nourrir, mais ça fait rien. D'accord, dans 48 heures, tu les auras. Allez. C'est épatant, quand même. Voilà, Iner Salim. Oh, mais j'espère qu'il y aura d'autres films, qu'il en fera d'autres, parce qu'il est encore relativement jeune. Hein. Voilà. Good night, soldier. Ah oui, c'est un drame, mais bon.
Et maintenant, c'est avec un film de Park Chan-wook, le coréen, que l'on retrouve avec le film Decision to Live.
Oui, Decision to Live, c'est un drame, c'est romancé, pardon, c'est policier également, et c'est un film de la Corée du Sud. Et Park Chan-wook, justement, c'est un réalisateur, scénariste, producteur sud-coréen. Il a 58 ans, il a 4 prix, 41 nominations, il a 29 ans de carrière et 22 tournages à son actif. Bon. Alors, par exemple, en 2004, il a réalisé un film qui s'appelle Old Boy, qui a eu un prix et 4 nominations. C'est un homme qui est enlevé et séquestré pendant 15 ans et qui désire se venger, on s'en doute. Donc, au Festival de Cannes 2004, il avait eu le grand prix quand même. Hein. C'est un film terrible, Old Boy, terrible. Et en 2009, il avait réalisé Thirst, Ceci est mon sang. C'est un drame, c'est de l'épouvante, c'est de l'horreur. Il y a eu un prix et 10 nominations, dont le prix du jury au Festival de Cannes 2009. Un très bon film dramatique épouvante. Ah ouais. Park Chan-wook, ne fais pas n'importe quoi. Décision to leave, ça veut dire décision de quitter, hein, si on traduit comme ça. Voilà, ça dure 2h18. Il y a un prix et 6 nominations. Il y a un prix il y a un prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2022. C'est le prix de la mise en scène.
D'accord.
Cette histoire, il s'agit de quoi ? On l'a dit, le prix ça. Hey Jun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Alors, dans les rôles, on a des acteurs sud-coréens, une actrice chinoise, Tang Wei, qui joue le rôle de Sor. Elle est ravissante et pleine de talent, cette actrice. On a Park Hae-il, qui est un sud-coréen, qui joue le rôle de Hae-jun. On a Go Kyung-pyo, qui est un acteur sud-coréen. Et on a Park Young-woo, qui a un rôle qui est de la famille de Park Chan-wook et qui joue un rôle important dans ce film. Alors, en fait, Decision to Leave, est un film pour adultes, nous dit le réalisateur. Ah bon ? Pourquoi ? Je n'ai pas considéré une histoire de deuil comme un événement tragique. J'ai cherché à l'évoquer avec subtilité, élégance et humour d'une manière qui touchera les adultes. En fait, le titre renvoie à la difficulté que l'on peut avoir à se séparer d'une personne. Eh oui, décision de quitter. Je quitte ou pas la personne. Ça dure 2h18, je crois que je l'avais dit. Ouais. Joli film aussi. Intéressant en tout cas, avec d'excellents acteurs. Ma foi.
Et ça s'appelle donc... j'ai retrouvé mes feuilles. Ça s'appelle Decision to Leave. Et un dernier long métrage que tu nous proposes aujourd'hui, c'est Barthélémy Grossman à la réalisation du film Arthur Malédiction.
Alors Arthur Malédiction. Ben oui, là quand même, c'est de l'épouvante. Hein. C'est de l'épouvante, de l'horreur, mais c'est du bon cinéma d'épouvante et d'horreur, bien sûr. Ici, à Radio Entre Deux Mers, quand on parle d'un film d'épouvante, d'horreur, c'est qu'on sait que c'est de la bonne facture. C'est du bon cinéma pour les amateurs, évidemment. Alors, Barthélémy Grossman, Barthélémy Grossman, réalisateur, acteur, scénariste, il est suisse. Il a 40 ans, il a 16 ans de carrière et il a 9 tournages à son actif. Ce monsieur, oui, il est. Moi, je le connaissais pas trop, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est très doué pour ce qu'il fait en fait. Hein. J'ai lu pas mal de choses sur lui. Le film, je l'ai pas dit peut-être. Hein, il dure 1h27, si peut-être. Il est interdit au moins de 12 ans, bien sûr, hein, comme toujours, hein, avec avertissement. Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Ça, c'est le synopsis. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar. Mais oui, ou pas. Alors c'est vraiment vraiment pour les amateurs, hein, mais c'est du bon cinoche, comme on dit, d'épouvante quand même, hein, y a pas de doute. Hein. Alors Barthélémy Grossman, en fait, il a participé, lui, comme réalisateur, à beaucoup de séries, en fait. Alors par exemple, No Limit, hein, la série No Limit en 2013. En 2014, la série Les Lascars, c'était la saison 2 d'ailleurs. Et alors on peut lire quand on regarde la bande annonce, mini monde maxi peur. il a travaillé pour la saison 1 de 2017 de Exposed aussi, la série qui marche bien, je crois. Voilà. Mini-monde, maxi-peur. Eh oui. Arthur, malédiction.
De Barthélémy Grossman. Et pour terminer, tu nous proposes deux documentaires, mais qui sont le même documentaire, mais en deux volets différents. Il y a les Cahiers Noirs, premier volume, Viviane, et le oui. Cahier Noir, deuxième volume, Ronit. C'est réalisé par oui. Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz. Alors, c'est quoi ces Cahiers Noirs en...
Alors, Cahier Noir, oui, 1, Viviane, Cahier Noir, 2, Ronit. Viviane, ça dure, le premier dure 1h48, le deuxième 1h40. Ce sont des documentaires israéliens Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz, qui sont frères et sœurs. Hein, mais malheureusement, Ronit Elkabetz, celle qui est la sœur de Shlomi, qui était une réalisatrice, scénariste, actrice, est décédée en avril 2016 à 51 ans, la suite d'un cancer. Donc, elle avait quand même déjà 26 ans de carrière, 28 tournages à son actif. Et lui, Shlomi Elkabetz, il a 17 ans de carrière, il a 49 ans, 10 tournages à son actif. Voilà. Donc là, c'est la même histoire, effectivement, pour les deux documentaires. Dans un taxi parisien, un homme apprend par un voyant marocain que sa sœur est sur le point de mourir. Pour tenter de déjouer la prédiction, le frère entreprend alors un voyage fictif entre le Maroc, Israël et Paris. À partir d'extraits de la trilogie écrite réalisée par Ronit et Shlomi Elkabetz et d'archives familiales, Cahier Noir Viviane et Cahier Noir Ronit nous invitent dans l'intimité d'une famille judéo-arabe. Une histoire imaginaire où le frère et la sœur revisitent le passé et le présent pour défier un avenir implacable. Mais l'ombre de la prophétie plane toujours dans la vie comme au cinéma. Les deux films ont été présentés au Festival de Cannes 2021 en séance spéciale. Le travail de montage pour ces documentaires a duré 4 ans. C'était 5 mois par an, voilà, c'est ça. Hein. 5 mois par an pendant 4 ans, soit 400 jours de montage pour assembler 600 heures de rush. Sacré travail. Un sacré bon boulot. Je voulais absolument parler de ces documentaires. Vous essayez de les choper peut-être dans un cinéma, mais de toute façon, ils vont sortir très rapidement en DVD pour ceux que ça intéresse, mes chéris. Voilà.
Oui, c'est ça, plus simple. Les documentaires, c'est souvent le DVD ou la VOD qui permet de les voir quand oui. Les cinémas ne les proposent pas. Ou alors, il faut trouver le petit cinéma d'arrêt d'essai qui propose souvent une séance dans la semaine de ce film documentaire. C'est toujours compliqué.
Oui, mais ça arrive parfois au Rex de l'Aréole, qui est un cinéma arrêt d'essai. Ça lui arrive hein, parfois de passer des documentaires quand il peut les avoir, bien sûr. Quand les distributeurs sont d'accord. C'est déjà arrivé. Il faut vérifier un petit peu parce qu'ils sont quand même à réessai. Mais sinon, tu as raison. C'est VOD ou le DVD pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et voilà, nous avons terminé. Donc là, je ne sais pas comment dire ça, moi, parce que j'ai un petit peu un nœud dans la gorge, là.
Mais comme je l'ai dit aux auditeurs hier matin, lors de la matinale, c'est ma dernière émission sur Radio Entre-deux-Mers. C'est la fin pour moi au micro de Radio Entre-deux-Mers en tant que salarié. Je continuerai mon émission du mardi soir en tant que bénévole, l'émission Sur les routes. Mais je ne fais plus partie de l'équipe salariée de Radio Entre-deux-Mers pour continuer dans une autre voie, une autre direction. Donc je te remercie Anne pour toutes ces émissions passées à tes côtés, plus de 300 émissions ensemble à discuter autour du cinéma. C'était bien agréable.
Depuis 2016, non, c'est ça ?
Eh bien, plus de 300 émissions, donc s'il y en a une cinquantaine par an, oui, ça fait 6 ans.
Ça a dû commencer. Je suis évidemment très émue. Et en même temps, je te remercie aussi Parce que, bah, j'ai passé de très bons moments avec toi sur ces émissions, parce que tu es un partenaire idéal, je dois dire. Et donc, voilà. Je vais certainement continuer l'émission. On verra, je verrai un peu.
Tant mieux. Comment...
Oui, bah, je pense que je vais pouvoir continuer. On verra ça de toute façon. Pour les auditeurs qui aiment le cinéma et qui appréciaient l'émission, je vais donc... mais je n'aurai plus Damien avec moi.
C'est ça.
Voilà. Et, et donc, je suis très émue. Et... Bah, chérie, je suis désolée parce que là, je suis très, très émue parce que c'est normal. Hein.
C'est ça, mais ce n'est pas grave car l'émission va continuer.
Oui, mais je te souhaite une bonne route. Hein. Je te souhaite
Merci beaucoup.
Plein de choses. Voilà, que tout se passe bien pour toi, parce que tu mérites, parce que tu es quelqu'un de bien et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour toi.
Merci et beaucoup, puis, Anna.
Je le pense, quoi. Puis voilà. Et puis je te fais des gros bisous, là, à l'antenne.
Merci.
Je te fais des gros bisous. Et puis, vous, mes chéris, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je ne sais pas, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. On verra. Et puis, sinon, essayez d'être heureux le plus possible. Profitez bien des journées du matin au soir, carpe diem, je vous le dis souvent. Prenez soin de vous également et de votre entourage. Mais là, on vous fait confiance, c'est sûr. Et en tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous. Au revoir, Damien.
Au revoir, Anne.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.